Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, vous êtes bien dans la 66e émission de Bonjour Turbine, émission enregistrée au Media Lab et diffusée en direct sur Station B et en différé sur Radio Pulse. Alors émission un peu spéciale ce soir puisque cette semaine nous sommes nous-mêmes nos propres invités, émission d'autant plus particulière puisque aujourd'hui on fête la fin de la saison de Bonjour Turbine et pour cette dernière nous nous projetons dans un court futur puisque nous allons parler vacances, on vous partagera nos différentes expériences de voyage inoubliables, on vous proposera également nos petites recommandations pour vous occuper durant la saison estivale et ce soir également beaucoup plus de musique qu'à notre habitude, on vous propose un petit florilège de morceaux qui nous font penser aux vacances. Mais avant de nous envoyer un petit morceau, je vous propose un petit tour de table de l'équipe en guise de sommaire pour nous mettre l'eau à la bouche. Et qui de mieux que commencer par notre technicienne Marion, de quoi tu vas nous parler toi ?
Moi je vais vous parler de ma traversée de l'Atlantique en voilier. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire ça il y a quelques années et ça m'a vachement marqué.
On a hâte d'entendre tout ça. Alors Alain, toi aussi un souvenir mais pas que. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Un souvenir très marquant aussi, un voyage en Islande au siècle dernier. Et aussi vous parlez de, pas très loin de l'Islande finalement, de l'Acadie, des Acadiens et quelque chose qui se passe en Normandie avec eux.
Très bien, on a hâte également. Et alors côté Florian, de quoi allons-nous parler ?
Alors on va parler d'agriculture urbaine et d'agroécologie en Amérique du Sud. Voilà un sujet que j'ai pu explorer pendant pas loin de 9 mois en 2017, voilà, autour d'un projet associatif.
Oh là là, génial, ça me met l'eau à la bouche. Et alors Lise, également un super projet toi dont tu veux nous parler ce soir ?
Oui, c'est ça. Moi je vais vous parler d'un projet que j'ai fait en août 2016, un projet associatif aussi, qui m'a permis de voyager au Sénégal. Et c'était un moment très très marquant et après je ferai même une petite pub pour les offices du tourisme parce que moi j'adore les offices du tourisme et on en trouve partout à travers le monde et je vous expliquerai pourquoi.
Eh bien très bien, merci beaucoup Lise. Alors je vous propose d'écouter un morceau Le temps est bon de Bon Entendeur accompagné de la sublime voix d'Isabelle Pierre.
Thank you.
là là, que le temps est bon quand on attend les vacances avec impatience. Et je vous le disais en début d'émission, nous sommes nos propres invités pour parler vacances. Et on commence avec notre technicienne en chef, Marion Jingle. Alors on commence avec du très très lourd puisque Marion, tu vas nous parler d'une aventure que je pense peu de personnes au monde ont pu réaliser. Tu as traversé de l'Atlantique en bateau. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer le but, le contexte dans lequel tu es partie ?
Eh ben, j'étais en pleine dépression et vraiment ça allait pas fort. Et quelqu'un m'a parlé de cette association qui proposait de traverser l'Atlantique en trois mâts avec un équipage en partant de la Bretagne. Et je me suis dit, ben tiens, j'ai besoin de changement. Et puis en plus, ça va me changer de prendre l'avion pour aller quelque part, peut-être expérimenter le slow tourisme ou quelque chose comme ça. Il y avait aussi une vocation écologique à pas trop consommer pour aller quelque part. Et donc, je me suis dit, ben vas-y, tente ta chance. Alors, arrivé le mois de fin janvier, quelque chose comme ça, je me retrouve dans un petit port de Bretagne qui s'appelle l'Abervrac. Donc, il faisait moins 8000 à peu près, hein, comme en janvier en Bretagne. Donc, quand tu vois le bateau et t'es là, mais il y a du chauffage, ça se passe comment ? Parce que je ne suis pas prête. Et donc, on monte sur le bateau. Donc, on fait connaissance avec des gens qu'on ne reconnaît même pas parce que tout le monde est en mitouflé, bonnet, écharpe, manteau, tout ce que tu veux. Et en fait, on ne les enlève pas les premiers jours parce qu'il fait trop froid. Alors, il y a un petit peu de chauffage et tout. On est 28 à bord. Donc, il y a quand même du monde à croiser, faire connaissance, apprendre des prénoms. Pardon ?
Il y a de la chaleur humaine au moins.
C'est ça, c'est ça. Et donc, on se retrouve quand même pour les différentes corvées parce qu'en fait, on fait partie de l'équipage. Donc, on doit diriger le bateau, monter les voiles, faire à manger, faire la vaisselle pour 28 personnes. C'est toujours assez fun. Donc, on découvre qu'il y a une pompe. En fait, on pompe l'eau de mer pour arriver à bord, pour pouvoir faire la vaisselle. On pompe l'eau de mer pour les toilettes, pour la douche aussi. Donc, c'est vraiment un truc complètement nouveau. Et puis, on commence à descendre le long de la France, et première escale, on l'a fait à Lisbonne. Donc, il commence à faire
en Italie alors.
Oui, c'est ça, l'Italie. Et en fait, on est deux bateaux à être partis en même temps. Donc, l'autre a fait escale à Portos, donc nous on les attend à Lisbonne. Et le grand choc que j'ai eu, en fait, c'est quand je suis descendue du bateau sur le quai, j'ai fait un pas. Tu vois, j'ai fait un pas pour descendre du bateau, et ensuite on a été visiter la ville, découvrir l'endroit. Et en fait, quand on est revenu, le bateau, il était à un mètre en dessous parce que j'avais complètement oublié la notion de marée. En fait, tu te dis pas, tiens, ma maison a une marée. Alors, heureusement, il y avait une échelle un peu branlante pour descendre, des choses comme ça. Mais du coup, c'était vraiment une expérience autre de se dire, t'arrives quelque part, mais en fait, ta chambre, elle change pas. T'as pas besoin de déballer tes valises. Elle reste à bord et tout. Après, on est quatre par cabine. Le confort et le luxe n'est peut-être pas là. Mais du coup, on continue de descendre. Alors, on s'arrête aussi aux Canaries. Où on a le début du carnaval là-bas. Et on continue de descendre. On arrive à Madère. Et là, on commence à avoir à peu près compris le concept du bateau. Donc, on se fait des marathons crêpes toute la nuit. Il y a quelqu'un qui fait des crêpes à la cuisine, par exemple. Et parce qu'on ne se disait pas, tiens, quand je pars en bateau, je vais pouvoir manger des crêpes. Tu vois, normalement, tu te dis, ah, je vais manger des
trucs lyophilisés, ce genre de choses.
Et non, on avait un chef et on avait des produits frais, enfin quand on partait, après, tout était plus ou moins frais, et beaucoup aussi de récup de nourriture par différents magasins et tout ça, donc, on avait par exemple énormément de crème de marron. Voilà, beaucoup, beaucoup trop pour une traversée de l'Atlantique.
On espère que t'aimais ça au moins.
Absolument, on a tenté de faire des gâteaux, on en a fait des trucs, mais donc on continue à descendre et on arrive au Cap-Vert pour le carnaval. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et du coup, on a pu découvrir un peu l'archipel. On a même pris un bateau pour aller sur une autre île pendant qu'on était posé là. Et ensuite est arrivée la traversée de l'Atlantique. Et donc ce, 12 jours, 12-13 jours en mer, sans croiser personne, sans s'arrêter nulle part.
Wow.
complètement en liberté. Donc c'était un truc de ouf. En plus, à la voile, que à la voile. On avait mis un petit peu le moteur pour sortir du port parce que c'était dangereux. Voilà. Mais du coup, ouais, cette traversée, on était une équipe et on avait enfin rencontré les gens sans les doudounes et les écharpes. On a vécu des trucs de ouf. Genre, on avait mis en place une heure pour apprendre. Quelqu'un qui proposait d'apprendre quelque chose pendant une heure à bord l'après-midi. Donc, on a pu apprendre des nœuds de marin, des chants. On nous a raconté des histoires. Je me souviens d'une fois où c'était pas le capitaine, mais quelqu'un racontait une histoire. On était tous absorbés par lui et il s'est pris un poisson volant dans la tronche. et du coup, voilà, des petites anecdotes comme ça. Mais on l'a fait et c'était vraiment un truc de fou de voir la Martinique arriver au loin le matin. Et puis, on avait quasiment plus de vent, donc on a mis du temps avant d'arriver. Et vraiment... C'était vraiment la liberté. On n'a croisé personne. On a peut-être vu un bateau au loin un moment, c'est tout. Et voilà, c'était vraiment ouf.
Ouais, quelle expérience. Et du coup, ce bateau-là, c'est un 3 mâts, tu disais. Combien de mètres ça représente
C'est un 40 mètres. Voilà.
Difficile à imaginer, en fait, finalement.
Voilà. Du coup, il y avait un des 3 mâts qui était vraiment comme un 3 mâts qu'on voit dans les dessins et tout ça. Et nous, on avait une ancienne péniche qui avait été où ils ont rajouté 3 mâts dessus pour une raison quelconque, voilà, qui était très sympa. Et en fait, dedans, on avait nos petites cabines, mais il y avait même un coin bibliothèque avec une table, des livres, il y avait des livres de musique, il y avait une guitare à bord, enfin, il y avait un tas de trucs où tu te disais pas on fait que de naviguer. En fait, on a vécu quelque chose, on a mis 6 semaines à y arriver et c'était vraiment une expérience folle, quoi.
Et la mer, elle était calme, elle était gentille?
Alors, vraiment, oui. On a pas eu de soucis à ce niveau-là. En plus, un gros bateau, ça vogue à peu près bien et tout. Mais on a eu un début de tempête au début. Donc, notre première escale, en fait, c'était pas à Lisbonne, c'était à Camaret. Mais ça faisait un peu moins classe de dire ça, parce qu'on avait navigué qu'une douzaine d'heures. Et puis, une huitaine d'heures et on avait dû s'arrêter. Mais sinon, ouais, on a eu très, très beau temps et vraiment nickel.
Donc, t'as même pas été malade?
Oh là là, si.
Alors là, le mal de mer m'a accompagnée pendant bien la moitié du temps, je dirais. Mais
Et tu t'habitues au bout d'un moment ou tu prends sur toi?
Eh ben, en fait, au bout de 2-3 jours, tu prends le pied de mer. Sauf qu'au bout de 2-3 jours, de 4-5 jours, on faisait une escale. Donc après, tu avais le mal de terre. Et après, tu reprenais le bateau et tu as le mal de mer. Mais ce qui est vraiment pratique, si je peux être un peu graphique, c'est que tu peux vomir par-dessus bord. Et du coup, il n'y a rien à nettoyer. Et ça, c'était quand même top.
Et franchement, merci Marion, on a voyagé. Moi, j'ai eu l'image du mec qui a eu le poisson volant dans la tronche.
Juste une chose, tu dis que tu n'as pas croisé de bateau, mais des bébêtes, vous avez croisé des bébêtes, des grosses bêtes?
On a vu des dauphins. Il y en a qui auraient vu une baleine. Ça, c'est pas sûr, mais un jour, il m'est arrivé. Alors, je faisais le quart de 3 à 6 heures du matin. Et je vais aux toilettes. Et là, j'ouvre les toilettes. Et en fait, il y avait du plancton phosphorescent. Et il y avait une ambiance disco dans toute la salle de bain. C'était un truc de fou. Et du coup, ça brillait dehors, tout ça. Enfin, vraiment, ouais. Et on a pêché des poissons, voilà, à la traîne. Bon, pas moi personnellement, mais il y a eu des poissons qui ont été pêchés.
Incroyable, disons que ça devait être un très beau séjour. Et merci beaucoup Marion pour ce témoignage. Et on va passer tout de suite aux Acadiens et on va se mettre un petit Michel Fugain pour annoncer tout ça.
Alors moi je vais vous parler de la semaine acadienne, qui est un événement qui se passe à Courseul et au Pré au mois d'août. Mais avant de développer le programme de cette semaine, un petit moment culture pour situer l'Acadie et pourquoi de cette semaine festive. Pour faire court, l'Acadie se situe au nord-est du Canada et des États-Unis. Elle regroupe une partie du Québec, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, les îles de la Madeleine, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador. En Louisiane, les Cajuns sont des Acadiens à l'origine dont l'usage de la langue les a transformés en Cajuns.
Et alors Alain, d'où vient l'origine de ce terme Acadie?
Alors parmi celles qui courent et qui semblent la plus répandue, donc peut-être la bonne, l'origine du terme Acadie viendrait probablement de Giovanni de Verrazzano, un explorateur italien au service du roi de France qui, en 1524, effectue son premier voyage dans le Nouveau Monde et nomme Arcadie la région côtière qu'il aborde, référence à une région du Péloponnèse perçue comme un paradis sur terre. Puis des colons français venus du Poitou, de Bretagne en particulier, et aussi de Normandie, s'y installent au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Il serait trop long de raconter l'histoire de l'Acadie, toutefois les révoltes, guerres avec les Écossais, les Anglais, les peuples autochtones vont marquer l'histoire de cette région. Lors du Grand Dérangement de 1755 à 1763, les Anglais demandent aux Acadiens de se soumettre ou de partir. Certains sont emprisonnés, un grand nombre reviennent en France et certains émigrent vers la Louisiane. Après le rétablissement, à partir de 1763 jusqu'en 1850, les Acadiens retournent vivre en Acadie. Ils prennent comme drapeau le bleu blanc rouge français, auquel ils ajoutent l'étoile de la Vierge Marie, Stella Maris, étoile jaune sur le bleu. La fête nationale acadienne a lieu le 15 août, la fête de la Vierge, l'Assomption. Et depuis 1989, cette fête est marquée par le Grand Tintamarre, celui de Caraquet en Acadie est le plus célèbre, où, comme son nom l'indique, on fait le plus de bruit possible pour crier haut et fort leur culture francophone.
Et alors chez nous, en Normandie, comment et où peut-on participer à cette fête ?
Alors, à l'origine, ça avait commencé à Saint-Aubin, maintenant c'est à Courseulles. Donc chaque année, la semaine acadienne se termine le 15 août par le grand tintamarre sur la digue, puis un repas-concert le soir dans la salle de l'édite. Cette semaine qui a été créée pour marquer notre attachement à nos cousins d'outre-Atlantique, près de 60 d'entre eux reposent au cimetière militaire de Bénirovier, propose donc des concerts, des animations, des commémorations, des produits canadiens, etc. D'ailleurs, Diane Tell sera là le 10 août à la salle de l'édite à Courseulles. Le 14 août, la libération autour de la guitare sera jouée salle de l'édite par Jean-Félix Lalanne, Michael Jones, Thomas Boissy et Loïka et une dizaine de guitaristes virtuoses, mais vraiment des pointures. Il y aura aussi Moyenne Rig, Toxic Frogs. Alors Toxic Frogs, elles ne sont pas canadiennes, elles sont françaises, mais c'est un groupe de filles complètement déjantées, punk, rock. Ça va déménager, déboucher les narines, les oreilles, tout. Il faut aller les voir. Émilie Landry, la famille Galland-Massine, Charlotte et Robin Leblanc, Bruno et Aurélie Cormier et plein d'autres artistes. Le programme complet et les réservations sont possibles, seront à retrouver sur www.semaineacadienne.net. Et en Bifort, le jeudi 18 juillet à 20h30, Claude Cormier et Baud Actan seront à la salle de l'OMAC à Courseulles. La réservation sont déjà possibles sur billetsweb.fr. Et là, je peux vous dire que ça va déménager parce qu'ils étaient là il y a 2 ans. Et ça danse, ça bouge, c'est vraiment très festif. Donc, il faut vraiment aller les voir.
Eh bien, merci beaucoup, Alain. Tu fais un très bon ambassadeur pour les Acadiens. Alors, on continue à voyager. Et je propose à Marion la technique de mettre le son suivant, mais en manière tapis. C'est-à-dire qu'on l'aura en fond musical le temps que Floriane s'exprime. Alors, je vous pitch un peu la chose. Mais à la suite de ses études en école de commerce et de communication, Floriane s'est orientée vers un poste de chargée de contenu. Son intérêt pour la problématique de l'agriculture urbaine l'a naturellement conduite à cofonder l'association Voz Organica en 2017 et un périple en Amérique latine à la découverte de la multifonction de l'agriculture. Alors Floriane, tu nous as préparé un petit texte sur tes motivations de l'époque.
Oui, c'est un petit texte que j'avais écrit en rentrant de ce voyage, donc en 2017 ou 2018, voilà, qui est un petit peu un témoignage de mes motivations et de mon état d'esprit à l'époque et qui, je pense, est encore un peu d'actualité.
Eh bien, nous t'écoutons, nous avons hâte.
Ce jour où j'ai senti que j'avais définitivement grandi, j'ai posé ce dernier regard, à regret, sur une enfance que je n'avais pas tellement envie de quitter. Des étés entiers à courir dans les champs, à grimper aux arbres et à dépouiller les framboisiers du jardin d'à côté. Un espace infini de jeux, d'abondance et de liberté. La peur, à aucun moment. Les responsabilités, pas pour aujourd'hui. De toute façon, on n'a que le chant du coq en guise de sonnerie. Que s'est-il passé pendant toutes ces années ? Quelle drôle de société a bien pu nous faire avaler que cette vie qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir, nous fait aussi perdre toute notre saveur. Il faut dire que la publicité est plutôt bien rodée. Ne cultive pas ton bonheur, achète plutôt ton ambition. À moi, on a fini par me vendre le rêve d'une capitale de curiosité, de rencontres et d'opportunités. Persuadée que j'aurais quelque chose à y trouver, j'ai cru à son emballage de promesses. Une fois que je suis passée du rêve à la réalité, c'est là que la vraie vie a commencé. Les jours se ressemblent, le temps devient rapidement ce concept filant et linéaire que tout le monde connaît. Et étonnamment dans la ville, coincée en 4 murs, dedans comme dehors, je remarque pour la première fois qu'une chose manque au tableau. L'horizon. Comment ai-je pu autrefois rire de ces drôles de troupeaux, attendant sans relâche les week-ends et les étés pour venir brouter l'herbe verte de nos prés et goûter la douceur de la tranquillité ? Ne nous mentons pas, à bien des égards, la démarche aura eu ses allures d'égoïsme. Mais qu'importe les considérations d'une génération désillusionnée et un peu survoltée, le jeu en vaut largement la chandelle. À certains moments, la curiosité aura bien laissé place à la culpabilité. Pourquoi chercher un sens à sa vie auprès de ceux qui parlent d'abord de survie ? Pourtant, parmi les quêtes si nombreuses, intimes et individuelles, celle du bonheur a quelque chose d'éminemment absolu. Et finalement, c'est là tout l'intérêt. Sur le potager terrasse d'un café du centre-ville de Curitiba, au Brésil, cette idée ne nous a pas attendus pour voyager. Tagué sur le béton, au pied d'un bac d'herbes aromatiques fraîchement plantées, Voltaire aussi a traversé les années. Il faut cultiver notre jardin. J'ai alors eu la certitude que cette chose était universellement partagée. Et c'est là que tout a commencé. 9 mois. 9 mois à contempler la vie qui cultive ses fruits, à l'observer faire grandir ses hommes et ses femmes, nourrir leur joie, leurs peines, leurs combats et leurs revendications. 9 mois à apprendre et à évoluer dans cette diversité, cette richesse de chemins croisés. 9 mois pour se conforter dans l'idée que la vie est par nature d'une très grande simplicité. 9 mois. Drôle de durée, non ?
Drôle de durée, effectivement. Je vois pas à quoi tu fais référence, 9 mois. Non, une idée peut-être autour de la table. Merci beaucoup, Floriane, pour ce récit de ces 9 mois en immersion en Amérique du Sud.
C'est pas le récit en tant que tel, mais en tout cas un petit peu la démarche qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai eu envie de dire stop à cette petite vie un peu tracée. Bon, j'avais le luxe de pouvoir aller faire ce voyage, donc je l'ai fait et puis je suis revenue et je pense que ça a changé pas mal de perspectives que j'avais en tout cas pour ma vie et mon avenir. Voilà.
D'ailleurs, c'est un sujet, l'agriculture urbaine, que tu as déjà travaillé, il me semble, la nature en ville, entre autres, non ?
Oui. C'est pas devenu mon métier, mais en tout cas un des axes que j'aime à travailler dans le cadre de mon activité de rédaction aujourd'hui. Donc j'ai notamment longtemps travaillé pour une revue qui explorait la thématique paysagère et végétale dans son ensemble, pas forcément l'agriculture en tant que telle, même si ça en faisait partie, mais voilà. Le végétal dans tous ses états.
Voyager pour s'inspirer. Donc, merci beaucoup, Floriane. Alors, je vous propose une petite pause musicale. Cette fois-ci, on fait un petit hommage à Françoise Hardy qui nous a quittés le 11 juin. On se l'écoute avec Jacques Dutronc pour le titre « Puisque vous partez en voyage ».
Il la remercie de l'avoir accompagnée, la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi ?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
C'est... Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois ?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures ? Puisque vous partez en voyage...
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage.
Retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Bah, il espère que c'est l'enfumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore ? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis. d'orange. Tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour son bagage, et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Et vous êtes toujours en direct avec l'équipe de Bonjour Turbine qui aujourd'hui parle vacances, voyages. Et justement, on continue cette fois-ci avec Alain qui va nous parler de son voyage en Islande.
Je te comprends, Marion, l'océan, le bateau, quand tu as le mal de mer, c'est terrible. Donc quand tu veux aller sur une île qui frôle le cercle polaire, il ne te reste que la nage, et je nage à peu près comme un phare à repasser, et de toute façon c'est bien trop loin, ou l'avion. Seulement quand tu as la trouille en avion, ça devient compliqué. Alors quand l'envie devient trop forte, tu prends sur toi, ou du moins tu essaies. À cette époque, je travaillais à l'ENP, aujourd'hui RA de la Ferté-Massé. Avec un collègue et ami, nous avions décidé de passer outre nos ports et nos peurs et de voyager, lui vers l'Afrique, moi en Islande. Soit au moins 5 heures d'avion pour lui et près de 4 heures pour moi. Je ne vous raconte pas le stress, rien qu'y repenser. Nous étions donc allés dans une agence de voyage, on était en 79, il n'y avait pas internet et tout ça, pour réserver nos billets. Il fallait attendre plusieurs semaines pour recevoir le précieux sésame.
Billets, rassure-moi, que vous avez bien reçus, Alain.
On les a reçus, mais quelques temps, juste quelques jours avant de partir. Et donc, pendant cette attente, nous nous charrions gentiment, voire un peu lourdement, enfin très lourdement. D'autant que plusieurs accidents d'avion, DC-10, avaient fait plus de 1000 victimes en quelques mois. Les deux compagnies aériennes possédant ce type d'avion, je ne vous raconte pas les blagues douteuses que nous nous envoyons si perfinement. Au fait, tu sais, ton vol, c'est sur un DC-10. Ouais, tu seras aux premières loges pour le prochain crash de DC-10. Le copain en question disant « De toute façon, si c'est un DC-10, je ne pars pas. Tant pis, je perdrai le prix de mon billet. » Moi, je ne me voyais pas perdre le prix de mon billet et j'espérais un autre type d'appareil en croisant les doigts. Quand nos billets sont arrivés, je me suis dit que j'aurais mieux fait de fermer ma grande gueule. DC-10 d'Islander pour moi, tandis que mon pote héritait d'un 747 d'UTA, une compagnie aujourd'hui disparue.
Et alors ce vol, comment s'est-il passé ?
J'avoue que j'en menais pas large quand j'ai pris un petit coucou, un Fokker 27, je crois, pour Luxembourg. Bah oui, il y avait seulement un vol direct par semaine pour l'Islande au départ de Paris et un vol quotidien au départ de Luxembourg. Pour le choix des dates, c'était mieux. D'autant plus qu'arrivé dans le Grand-Duché, le vol pour Keflavik, l'aéroport de Reykjavik, était annoncé avec au moins 8h à 10h de retard. L'avion étant bloqué à New York, sans plus d'explications. Du fait de la courbure de la Terre, la route directe vers New York passe par l'Islande. Nouveau coup de flip. 10 heures, c'est long quand tu n'as pas prévu, et Luxembourg est une ville chère. Le grand oiseau arrive néanmoins et se prépare à repartir. Mon truillomètre est au plus haut, juste aimé être croyant pour faire une prière, pas de bol, athée. Décollage, waouh ! Aucun autre avion ne m'a fait autant d'effet de puissance. Génial ! Le stress redescend un peu, et 3 heures plus tard, c'est le seul Islandais. Alléluia !
Donc arriver en vie, déjà, c'est rassurant quand même.
Oui, c'est très rassurant. Nous sommes le 3 août, il est minuit moins le quart, le soleil se couche, il fait jour. Un quart d'heure plus tard, le jour se lève. Bienvenue au pays du soleil de minuit. 3 semaines de découverte d'un pays fabuleux, glacier, volcan. Je suis allé au bord du cratère d'un volcan où les astronautes de la NASA étaient venus préparer leur voyage sur la Lune, les conditions étant très proches de celles lunaires. Tu mettais un œuf dans le sol, un quart d'heure plus tard, c'était un œuf dur. C'était hallucinant. Iceberg, chute d'eau impressionnante et des chevaux et des milliers de moutons. D'ailleurs, j'ai ramené un pull en laine qui m'a coûté un bras et que j'ai dû mettre seulement 2 ou 3 fois tellement il était chaud et grattant. Et là-bas, c'est des gens adorables.
Et donc là, tu vas nous annoncer que tu t'es installé en Islande.
J'ai failli parce que il fallait rentrer. Donc quelques jours avant le vol retour, je vais confirmer mon billet, pas de portable à l'époque, et au comptoir de la compagnie à Reykjavik. Là, on me dit que ce ne sera pas le vol prévu. Le DC-10 est maintenu dans un hangar à New York, le temps de trouver l'origine des accidents. C'était pas des terroristes en tout cas, et c'était pas rassurant malgré tout. Je prendrai donc un DC-8 à la même heure que prévu. Là, mon stress descend autant que mon sourire s'agrandit. Et en voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Surtout que j'apprends que le DC-10, le seul d'Islandair, a été bloqué à l'arrivée de mon vol aller. 24 août, je suis à l'aéroport. Carpiquet fait grand par rapport au Keflavik de l'époque. Je valide mon billet, passe les contrôles et m'assois en salle d'attente dont les vitres donnent sur le tarmac. Et là, à une vingtaine de mètres, 2 DC-8, les 2 pour Luxembourg, comme c'est annoncé sur les panneaux, ont les capots des moteurs ouverts et des mécanos clés et tournevis à la main trifouillent dans les moteurs des 2 avions. Je ne vous raconte pas l'état du gars Alain au décollage avec un peu de retard. Pourtant, vol sans problème, vivant. Oh ! Et une demi-heure d'attente pour récupérer mon sac à dos qui avait été placé dans le second avion. Vive les vacances.
Bon alors, te connaissant Alain, tu as encore une petite anecdote pour conclure ton récit de voyageur, j'imagine.
Ouais, alors là, c'est beaucoup plus sympathique. Avant de conclure, un petit souvenir étonnant. J'avais emmené avec moi de la lecture. Les soirées sont longues quand la nuit tarde à venir. J'étais installé dans une école. À cette époque, les Islandais louaient des matelas dans les classes ou des chambres aux voyageurs. Ça faisait un petit pécule pour les activités avec les enfants. J'ai trimballé une tente d'une dizaine de kilos sur mon sac à dos pour rien. D'ailleurs, je me souviens que ma grand-mère avait cousu un drapeau français et un drapeau normand sur mon beau sac La Fuma bleu. Un soir donc, près du lac Midvant, un lac où des restes d'une coulée volcanique dessinaient d'étranges formes fantastiques, dans une salle commune, assis à une table, parallèle à d'autres tables où étaient assises une Suissesse allemande, on était 3 dans la salle, et une Canadienne anglaise que je retrouvais au gré de nos parcours respectifs. Assis donc à la même place, sur 3 tables différentes, lisant tous 3, je vous le donne en 1000, Le Seigneur des Anneaux, en français, en allemand et en anglais. Étrange et peu banal dans ce pays de saga, à une époque où les films éponymes étaient encore très loin d'être réalisés. Ah, l'Islande, pays merveilleux et merveilleux.
Donc on comprend mieux pourquoi ce jingle aux allures du Seigneur des Anneaux.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Alain pour ce récit. On a aussi bien voyagé avec toi.
Merci. You're welcome.
Et alors désormais, je vais me prêter à un exercice qui n'est pas simple puisque David, qui n'est pas présent aujourd'hui, a écrit une petite chronique. Alors je vais faire du mieux que je peux pour incarner le texte qu'il nous a écrit. C'est parti. Voyage en absurdie. Pas besoin de se déplacer pour voyager, il suffit de rêver, d'imaginer, de lire, d'écrire, et hop, c'est parti. Alors attachez vos ceintures, en route pour un petit périple de mon cru. J'ai voyagé avec Salaké Bouffamé, un ami indien. Avec lui, nous nous sommes mis en quête du Yeti, le fameux monstre au Népal. On a fini par en trouver 7. 7 Yetis. Ils sont moins rares que la panthère des neiges. Ils sont super sympas, contrairement à leur réputation. Du coup, on a monté une adaptation de Blanche-Neige. Les Yetis jouaient les nains, c'était extraordinaire. Comme ils étaient mignons quand ils chantaient en chœur. Yeti, Yeto, on rentre du boulot. De Bercy et même d'Evrecy à Broadway, on a eu un succès fou. Au nord de Maubeuge, j'ai rencontré Aurore Boréale, une stripteaseuse d'Oslo qui se faisait bronzer au clair de lune. Je l'ai aimée comme Pierrot aimait la lune, puis elle m'a quitté dès l'aurore pour le beau Real de Mbappé. J'en ai connu de toutes les couleurs, je vous dis, et aussi de tous les goûts. Une russe, blanc, un pot rouge, emplumé, un petit suisse, sans le sou, ce qui est plutôt rare, ce qui est encore plus rare que la panthère des neiges, une savoureuse religieuse qui sortait du couvent comme une poule pondeuse, et un gars de Livaro dont les pieds sentaient délicieusement le fromage. Et oui, les voyages sont faits pour les rencontres. J'ai d'ailleurs rencontré un autobus, je me le suis pris de face, sur une route en Bretagne entre Pont-l'Abbé et Sainte-Honorine-des-Pertes. Personne n'est parfait. Quand je pars à la pêche, je ne sors jamais sans mon avenot, mon chapeau et ma trompe de brume. plus pour sauver les équipages en détresse que pour me faire repérer, car je pêche discrètement, à l'affût derrière les rochers. Je pêche avec Pascal, mon pote, qui connaît tous les coins, et les coins-coins, car il chasse aussi un canard vivant dans le gabillon. Il aime les chats, et il en mange régulièrement à la place des lapins. Il va finir par avoir la SPA sur le dos, car les vestes en poils de chat sont interdites à la vente, à usage de manteau, par l'Union européenne, de même que les baleines en parapluie. À la mer, je divague, c'est normal. À la montagne, j'en fais une montagne, c'est normal aussi. Pourquoi y a-t-il une frontière entre les hommes, les femmes et le reste, et aucune autre entre la réalité et la fiction ? Avant le coucher du soleil et la douce nuit, il faudra que je dise que j'ai kiffé souffler dans les turbines pour dire bonjour, que j'ai adoré piloter une caisse à savon et partager mon territoire avec notamment mon amie Marion, la plus généreuse et drôle technicienne de France et de Navarre. J'ai été honoré d'être un whip et m'amuser près d'un réfrigérant où j'ai eu la chance de rencontrer des personnes rafraîchissantes. Dans mon voyage en intimie, j'aime bien pouvoir compter sur Bobby Lapointe qui est, comme son nom l'indique, à la pointe du jeu de mots. Je peux encore raconter plein d'histoires et continuer mon voyage en absurdie. Ma rencontre avec mon idole Platini ou du jour où à Sainte-Maubeuge, Sainte-Marguerite de Touraine, j'ai joué les Belmondo en faisant une cascade sur le capot d'une voiture, mais le temps d'une chronique ne suffirait pas. Avant de repartir en vadrouille, mon moyen de locomotion, à moi, c'est le rire. Quand je ris, je voyage dans mon cœur, et le plus beau, de parvenir à faire rire les autres. Alors je voyage à l'intérieur de votre corps. Je veux continuer à être cet aventurier du quotidien. Voilà, merci les amis pour cette année radiophonique et sachez que je prépare déjà mon sac pour la rentrée prochaine. Un texte écrit par notre cher et tendre ami David que l'on peut applaudir pour sa si belle plume.
David qui nous écoute d'ailleurs de Lyon.
Exactement.
Il vient de nous envoyer un message.
Exactement. Eh bien, on te fait un énorme coucou. Ouais, c'était très, très beau.
Très beau. Parfaitement incarné.
C'est gentil.
Oui.
J'ai bugué.
Mais c'était beau de dire... Je voyage dans les cœurs grâce au rire, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'il nous fait voyager, David, comme ça.
Complètement, complètement. Avec le rire et les mots, quoi.
Tout à fait.
Donc, merci beaucoup, David. Alors,
merci, David.
On a pris un petit peu de temps. Donc, le prochain son qui était prévu, c'est Holiday de Green Day. On ne se l'écoute pas. Vous pourrez l'écouter à la radio, sur Spotify. On s'en fout. Alors, on passe à la suite. Vous le savez certainement, les élèves de seconde sont en stage depuis 2 semaines dans les entreprises, les associations, les collectivités, et ce, partout en France. Alors, je n'ai pas pu y échapper. J'ai dû m'en coltiner un au Media Lab de son prénom Nathan. Futur journaliste sportif, en tout cas on lui souhaite, il a lourdement insisté pour participer à sa manière à l'émission. J'ai évidemment accepté pour qu'il me fiche la paix. Je vous invite donc à écouter la chronique de Nathan, ce féru de sport qui nous propose un focus sur les sportives normandes que nous retrouverons cet été dans les grandes compétitions internationales.
Thomas. C'est passé dans le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard.
Et qui est grand.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les sportifs normands à regarder cet été. Ils sont à l'Euro, sur le Tour de France et bien sûr au JO.
Alors cher Nathan, parle-nous des footballeurs avec le championnat d'Europe qui se déroule actuellement en Allemagne.
Alors nous retrouvons en équipe de France 3 normands. Alors il y a en premier Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain né à Rouen, formé au Girondins de Bordeaux. Il joue actuellement au Real Madrid et en équipe nationale. Nous retrouvons également Ousmane Dembélé, attaquant né à Évreux. Par la suite, il est entré au centre de formation du Stade Rennais. Aujourd'hui, il évolue au Paris Saint-Germain et avec les Bleus.
Alors le dernier se nomme Dayo Upamecano.
Effectivement, le défenseur central né à Évreux, formé à Valenciennes, puis transféré en Autriche. Il joue au Bayern Munich et en équipe de France.
Alors justement, un premier bilan après ces 2 semaines écoulées. Quels sont les premiers résultats des Bleus lors de cet Euro ?
Alors, lors du premier match, la France s'est imposée 1-0 face à l'Autriche. Malheureusement, lors du deuxième match, les hommes de Didier Deschamps ont concédé le nul face aux Pays-Bas. Lors du dernier match de poule, la France fait match nul 1-1 contre la Pologne. Les Bleus sont donc qualifiés en 8e de finale.
Et alors, les Normands dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont participé à ces rencontres ?
Alors, lors de la première rencontre, les natifs d'Évreux ont pris part au match, mais pas Aurélien Tchouaméni. Face aux Pays-Bas, ils ont tous trois disputé le match. Lors du dernier match face à la Pologne, ils ont été de nouveau tous trois alignés.
Alors merci pour ces infos Nathan, maintenant on va passer aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des athlètes normands qui se sont qualifiés aux JO de Paris ?
Oui, il y en a 7, dont 2 paralympiques. Nous retrouvons par exemple Amina Zidani en boxe moins de 50-60 kg qui fait figure de favorite, vise l'or. Ces combats auront lieu à l'Arena Paris Nord et au stade Roland-Garros à Paris. Venez l'encourager. Logan Fontaine en nage en eau libre, champion du monde du 5 km de la discipline, aura sa carte à jouer lors de ces JO. Éric Delaunay sur le tir après 2 Olympiades où il a terminé 7e et 5e. Il peut cet été à Paris monter sur le podium. Et nous retrouvons enfin Jérémy Mion en voile mixte. Après avoir fait 6e du mondial avec sa coéquipière, il vise un podium et même une médaille d'or.
Et alors côté paralympique, nous avons aussi 2 athlètes normands.
Alors nous retrouvons Florian Mérien en paratennis de table. Il est quadruple médaillé paralympique et peut encore espérer une nouvelle médaille d'or. Et il y a également Alexis Anquincan qui est paratriathlète. L'homme 6 fois champion du monde de suite peut parachever sa carrière avec une médaille d'or. Nous espérons donc que tous ces Normands nous ramèneront une belle médaille.
Alors on se souhaite une Coupe d'Europe, plein de médailles au JO, mais aussi il y a le Tour de France qui arrive bientôt. Combien de coureurs normands seront présentés sur les routes de France cet été ?
Eh bien nous en trouvons 5. Ils sont prêts à défier les plus grands du peloton.
Alors, est-ce que certains participent à leur premier Tour de France ?
Oui, il y a Sandy Dujardin qui participe à son premier grand tour, mais a déjà fait les championnats d'Europe avec l'équipe de France. Il y a également Kevin Vauclin qui peut espérer une plus grande réussite que sur son premier grand tour en Espagne où il avait abandonné. Nous lui souhaitons une bonne première participation.
Et alors, le champion de France sera-t-il là pour disputer son premier Tour de France ?
Paul Lapeyrat, qui vient de devenir champion national, participe à la grande boucle. Cependant, il ne découvre pas les grands tours et il compte 2 participations, une sur le Tour d'Italie et l'autre sur le Tour d'Espagne.
Et alors, est-ce que l'expérience du Normand Nicolas Prodhomme sera bénéfique pour son premier tour ?
En effet, le coureur né à L'Aigle a déjà participé 5 fois à des grands tours, 2 fois en Italie et 3 fois en Espagne. Il aura peut-être une carte à jouer avec son expérience.
Alors, le Normand le plus connu d'entre eux, Guillaume Martin, est-il le Normand le plus en vue pour le classement général ?
En effet, Guillaume Martin est très en vue. Il a participé plusieurs fois au Tour de France et a même fini 8e en 2021. Il pourrait viser le podium lors de cette édition. Nous lui souhaitons du courage à lui ainsi qu'à tous les coureurs. Merci de m'avoir écouté. Allez encourager nos Français partout cet été et à bientôt pour une nouvelle chronique.
Alors, autour de la table, qu'est-ce que vous en avez pensé de Nathan, ce super stagiaire ?
Petite graine de journaliste.
Ouais, hein. Ouais, oui. Il a de l'avenir.
C'est Alain, prometteur.
C'est prometteur.
Ah ouais, ouais. Sacrément bien renseigné. Hein.
Ah ouais, il a bien taffé son sujet. C'est lui aussi qui a fait le jingle qu'on a entendu. Donc un grand bravo à toi, Nathan. Et on continue justement à parler vacances. Cette fois-ci, c'est avec Lise. Lise, tu vas nous parler d'un voyage au Sénégal. Explique-nous un peu le contexte et puis comment ça s'est passé. On t'écoute.
Alors, ça se passe en 2016. Donc moi, au mois de juin 2016, je sors de prépa, je sors de mes concours et je commence un petit peu à me projeter dans la vie professionnelle. À ce moment-là, je savais que j'avais envie de travailler dans les relations internationales et peut-être même dans l'humanitaire. J'avais un peu des grands rêves, travailler dans les grandes organisations, etc. Mais je savais que c'était un secteur dans lequel il fallait avoir le cœur bien accroché et je ne savais pas trop par où commencer. Je retourne dans ma commune natale à la fin de mes concours et je discute avec les gens de la ville et notamment les gens du service jeunesse que je connais bien parce que j'étais dans les clubs ados, les trucs comme ça. Et ils me disent qu'avec la municipalité, en fait, il y a le projet de relancer des jumelages historiques qu'il y a entre les villes en Europe et aussi en dehors de l'Europe et qu'il y a notamment un projet autour du Sénégal pour faire un partenariat interculturel et faire découvrir la culture française au Sénégal et faire découvrir la culture sénégalaise en France. Je me dis, tiens, ça a l'air intéressant et tout. Puis c'est quand même des pays qui sont habituellement dans des programmes d'aide, etc., d'aide au développement, mais rarement dans une perspective vraiment culturelle, d'échange. Et là, en plus, c'est un projet autour de la citoyenneté, etc. Donc je me dis, super intéressant. Et je leur dis, mais il reste de la place. Et ils me font, oui. Et je dis, vas-y, je me lance. Puis, tu sais, à l'époque, t'as pas trop de filtres, quoi. T'as 18-19 ans, tu te dis, t'as un peu tête brûlée et tout. Et je rentre le soir, je dis, mais pardon, dans 2 mois, je pars au Sénégal. Ils font, mais quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Et je leur dis, ouais, il y a un super projet avec Christophe et Renaud et tout, qui connaissent bien les animes et tout ça. Et ils me font, ok, c'est où et tout. Je dis, je crois que ça s'appelle Oussouille en Casamance. On regarde, on trouve même pas sur Google Maps, tu sais. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien, c'est la brousse, quoi. Mais je me dis non, mais j'y vais et tout ça. Et donc, je rejoins l'asso. Et dans les membres de l'asso, bah, y a des anciens camarades de collège à moi et tout. Donc, super contente. Et puis, bon, les semaines s'écoulent et le départ approche. Et je me dis waouh, waouh, waouh.
Dans quoi je me suis embarquée.
Exactement. Et puis, en fait, tu te dis non, mais il faut y aller, quoi. Et donc, on prend le bus, on va jusqu'à Paris, on prend l'avion, on arrive à Dakar. On passe quelques jours à Dakar et on a un premier choc culturel quand même, parce que c'est une ville qui déborde de vie, mais ça va dans tous les sens, et de poussière aussi. Et en fait, on fait le choix aussi de faire beaucoup de choses à pied pour se rendre compte, parce que souvent là-bas, tu te déplaces en taxi, etc. Mais on avait vraiment envie de sillonner la ville, de mieux la comprendre, de rencontrer les gens. Mais on rencontre aussi malheureusement beaucoup de misère, donc ça nous fait quand même un sacré choc. Moi, j'avais commencé un peu à fumer à l'époque et je me souviens qu'on fumait tous comme des pompiers parce qu'on était un peu stressés, quoi. mais en tout cas, on se dit, ouais, ça y est, on est dedans. Et puis après, le périple n'est pas fini parce qu'on s'en va quand même dans une région qui est au sud-est du pays, qui est vraiment en campagne. Et donc là, on reprend un bus, un bateau, un deuxième bus et on finit le trajet à pied. Donc en fait, on a je ne sais pas combien de jours de voyage. Et donc déjà, on est quasiment tous malades dans le bateau. Et en plus, on a pris le traitement anti-palu. Et ça nous met, mais...
Ouais, c'est lourd comme...
C'est assez lourd, quoi. Il n'y a que deux des encadrants qui avaient déjà fait ces traitements-là, qui sont complètement habitués, donc aucun souci, quoi. Et nous, on était tous au bout de notre life. Et enfin, on arrive à la tombée de la nuit et dans la petite commune de Oussouy. Enfin, commune, c'est même un petit village, quoi. Il n'y a pas d'éclairage public, on ne voit pas grand-chose. Et puis en fait, on va se coucher parce qu'on n'en peut plus, quoi. Et on se réveille le lendemain et moi je reste alitée parce que je me dis ouais, je tiens pas, quoi. Mais super frustrée parce que tu loupes la première journée, tu te dis waouh, mais c'est le moment où tout le monde va se découvrir, etc. Parce que bah, ça faisait très longtemps qu'il y a eu un grand groupe qui était venu à Oussouy. Il y avait déjà eu des échanges qui étaient revenus entre les mairies, les élus et tout ça, mais un groupe de jeunes qui vient rencontrer un autre groupe de jeunes et faire des projets ensemble, ça faisait hyper longtemps. Donc c'était un peu la grande fête et bon, bah, j'ai loupé ça, mais mon corps il avait dit non, quoi. Mais dès le premier soir, je dis bon bah ok, je reviens en piste. Et puis ça a été la fête pendant 2 jours. Et après, bah, on a lancé entre guillemets le vrai projet, qui était du coup de mener des réunions avec plein de forces vives du village, donc les anciens, le groupe des jeunes, les gens de l'école, la mairie, etc., pour se dire bah, quels sont les espaces qui font vie publique en fait dans le village et comment ça peut se développer avec des chantiers participatifs, avec des ateliers ensemble, etc. Et donc, nous, on avait aussi amené un peu de matériel, des fournitures, etc. Donc, on a fait une petite bibliothèque de fortune sur le principe un peu de la boîte à livres qui commençait à se développer à ce moment-là. On a fait des assises en terre et en paille sur la place du village pour créer des endroits où les gens pouvaient se retrouver. Donc, c'était pas grand chose, mais c'était entre guillemets un peu le prétexte pour tout le débat qu'il y avait autour. Et de là, en fait, on a profité beaucoup plus pour parler de nos cultures, de notre rapport à la citoyenneté en France et au Sénégal. C'était hyper passionnant. Et tout ça, ponctué d'initiations de danse, de musique et de fêtes, parce qu'on était vraiment aussi... on était hébergés dans une auberge, mais on passait ponctuellement, chacun d'entre nous, on allait dans les familles et on n'était plus avec le groupe des Français. Et ça, c'était hyper cool aussi. Donc moi, j'ai appris à faire de la pâtisserie avec une des mamas du village. On était vraiment tous ensemble. Et puis, il y avait certains qui ont été à un mariage, d'autres à un baptême. On a tous goûté le 24 jours à un moment. Enfin, c'était incroyable. Il y a un autre moment qui est très important qui m'a marqué, c'est que ensuite tout le groupe, donc les Français et les Sénégalais qui participaient au projet, on est partis ensemble pendant 3 jours au Cap Skiring et à l'île de Gorée. Et en fait, l'île de Gorée, c'est important dans l'histoire franco-sénégalaise parce que c'était un point de départ pour la traite de l'esclavage. Donc un moment très très fort. Et en fait, pendant 2 jours, notre guide, ça a été un des jeunes du village qui lui s'était formé, enfin qui était féru d'histoire et qui s'était un peu formé sur, il avait une aura naturelle pour être guide touristique, quoi. Et, ouais. Et de faire du tourisme de mémoire. Et c'était passionnant de l'écouter, mais on avait tous les larmes aux yeux, quoi. Donc c'était hyper fort. C'est toujours un ami d'ailleurs, Wally, et aujourd'hui il travaille en France dans le tourisme et il est venu faire une partie de ses études ici et il travaille à Toulouse. Enfin, je trouve ça génial parce que ce projet-là, en fait, il a ouvert plein de perspectives à pas mal de jeunes. Bon, beaucoup les hommes, malheureusement, plus que les jeunes femmes avec qui on avait fait le projet. Mais voilà, donc c'était un moment super fort. Et l'été d'après, nous, les Français, on a aussi reçu les Sénégalais qui sont venus 3 semaines en France. Et on a parlé, on a fait aussi du tourisme, mais autour de ce qu'on connaît plus, c'est-à-dire la campagne, la production laitière, les stations balnéaires, les hauts lieux de fêtes populaires, les guinguettes, etc. Donc très différent, mais c'était aussi hyper intéressant de faire ces parallèles-là. Donc voilà, c'était un projet hyper fort, hyper marquant et qui a une continuité parce que, comme je disais, il y a eu ces échanges qui ont perduré. L'association, elle est toujours un support aujourd'hui dans le jumelage entre les villes et un peu moins maintenant, mais sinon, il y a toujours des animateurs du service jeunesse de Usui qui viennent une fois par an en France faire un parcours découverte dans les écoles sur la culture sénégalaise avec des ateliers de musique, etc. etc. Et puis, ces jeunes avec qui on a fait le projet, qui ont pu... ça a été un peu un tremplin dans leurs études après qu'ils ont fait en France ou ailleurs en Europe, soit par rapport au tourisme, soit par rapport à des parcours dans la culture, etc. Donc, je trouvais ça formidable. Et moi-même, ça a été une matrice après. Aujourd'hui, je travaille toujours dans la culture et c'était pas pour rien, je crois.
Incroyable comme récit. C'est peut-être, comme tu disais, c'est on n'est pas là pour consommer ou donner des leçons. Quand il y a une question d'échange, déjà,
c'est ça. Ça change complètement la physionomie du voyage. Moi, ça m'a complètement perturbé ma vision des relations internationales entre l'Europe occidentale et puis une partie de l'Afrique subsaharienne où tu dis souvent ça reste dans l'aide d'urgence, le médical, le soin, etc. Mais en fait, c'est hyper important d'établir aussi des projets qui remettent un peu tout le monde ensemble dans le partage quoi, et la convivialité. C'était ça. Donc, je remercie encore les personnes qui avaient porté ce projet-là. Et puis, je suis hyper heureuse de l'avoir vécu, de l'avoir fait vivre aussi. Et j'ai toujours contact avec certains de nos amis sénégalais, sénégalaises. Donc, je pense très souvent à eux et à elles. Et je suis contente d'en avoir parlé ce soir.
On les salue. Tu leur enverras l'émission en podcast. Carrément. Comme ça, ils sauront que tu les as pas oubliés. Tu ne les as pas oubliés. Oui, c'est ça la phrase. encore un récit, encore un beau récit. Merci beaucoup, Lise. Alors, je vous propose pour les 8 minutes qui nous restent de parler culture, et cette fois-ci, ça va être les conseils culture de Sandrine qui va nous proposer une lecture pour les vacances.
Et nous allons passer du côté de Sandrine qui, elle, nous fait un petit conseil lecture pour cet été.
Comme toi Marion, le côté sport c'est très bien, mais je ne suis pas une très grande sportive et pour moi vacances ça rime aussi avec transat et potentiellement petit bouquin, je vous en conseille un. Le titre « Tant que le café est encore chaud ». L'auteur. Beaucoup moins facile à prononcer. Je tente l'aventure, faites-en ce que vous pourrez. Toshikazu Kawaguchi. C'est chez Poche, c'est à peine 8 euros. Et le petit speech pour vous donner envie de tourner les premières pages. Une petite ruelle à Tokyo, un petit café. Et dans ce petit café, il y a plein de légendes, il y a plein de non-dits, on raconte des trucs. Et on raconte surtout que quand on déguste un café dans ce petit café, on peut retourner ou dans le passé. Alléchant, non ? Ça vous donne envie ? Ouais. Moi, j'ai adoré. C'est un petit voyage, par contre, qui a des règles bien précises. On ne peut pas changer ce qui se passe dans le présent, même dans ce voyage dans le passé. Et le voyage ne peut durer que le temps du café. Votre café, le temps du voyage, il doit encore être chaud quand vous revenez. S'il n'est plus chaud, que se passera-t-il ? Suspense. Et dans ce petit récit, vous allez suivre l'aventure de 4 femmes et comprendre finalement que le présent, il est peut-être un peu plus important que le passé et tous les regrets qu'on peut avoir. Bonne lecture, bon transat.
Et je vous propose de prendre la balle au rebond. Autour de la table, Alain, Lise, Marion, Floriane, pour nous donner vos recommandations culturelles pour cet été, ces vacances. Alors, qui veut commencer ? Lise, Floriane, allez Floriane,
oui,
c'est parti.
Ce sera très court. Pour cet été, cessons de distinguer nature et culture, enlevons plutôt nos chaussures. Sur la sable de nos plages, l'herbe de nos campagnes et même le bitume de nos cités, pensons surtout à respirer et sentir les vibrations du monde sous nos pieds.
Waouh, elle nous a dit j'ai rien préparé aujourd'hui, mais quelle belle plume. Et allez, je passe à Alain.
Moi, je vous recommande 2 expos. Il y en a une qui se passe à l'hôtel de ville de Caen sur Joséphine Baker. Et la deuxième, c'est à l'église Saint-Nicolas où il y a une exposition du 21 juin, donc c'est commencé jusqu'au 22 septembre. Et c'est des œuvres de Sean Scully, un des plus grands artistes mondiaux actuels. Des œuvres monumentales, il y en a même une dans le cimetière juste à côté. Et donc, je conseille d'aller voir ça. Ça va Ça va être beau.
Eh ben, c'est noté sur l'agenda. Lise, est-ce que tu as un petit conseil à nous donner ?
Oui, moi j'aurais deux recommandations pour cet été. La première, c'est le festival Chouffé dans la noirceur, qui est le week-end du 14 juillet. Donc en plus, il y a un jour férié dedans, donc c'est chouette. C'est un peu plus loin de Caen, c'est dans la Manche, à Montmartin-sur-Mer. Le contexte est génial, c'est qu'on est en bord de mer. Et l'après-midi, c'est gratuit. C'est un village éco-citoyen autour de beaucoup d'initiatives locales pour le développement durable. C'est vraiment super. Et le soir, il y a de la musique, c'est payant pour rémunérer les artistes. Mais c'est vraiment un très bon moment. Et en plus, on est les pieds dans l'eau. Et ça m'amène à ma deuxième recommandation qui est on a quand même la chance d'avoir la mer tout près de chez nous. Avec le bus ou en covoiturant, on peut y aller. C'est toujours un plaisir d'avoir le sable sous nos pieds.
Effectivement. Alors Lise, j'en profite pour aussi parler de moi, mes petits festivals que je vous propose. Alors Chouffé dans la noirceur, dans la même, à peu près la même veine à Saint-Denis-de-Gastine, il y a les Foins de la Rue. Alors j'ai absolument pas la date sous les yeux, mais c'est vraiment pour l'avoir fait, c'est un super festival. Et évidemment, le 19 et 20 juillet, Arsonic à Briouze. Voilà cette petite bourgade ornaise qui
que
accueille...
Que tous les auditeurs auditrices du MEDEF doivent connaître désormais.
Mais bien sûr, bien sûr. Donc cette ville qui organise depuis quand même 1996 ce festival, là c'est la 27e édition, il y a de super têtes d'affiches. Si vous voulez en savoir plus, il y a une émission lundi sur Station B à 17h dans l'émission L'Inopiné, où on a invité Xavier Carjuza, le coordinateur du festival. Et puis bah, cette fois-ci, je peux proposer à Marion, est-ce que toi tu as une petite recommandation ? Alors elle ouvre les yeux, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire ? Est-ce que tu as une recommandation culturelle toi pour cet été ?
Ben moi je rejoins assez Lise, un beau coucher de soleil sur la plage, voilà, il y a rien de plus simple et il y a rien de plus chouette.
Exactement, eh ben, on se retrouvera tous à la plage alors. Et je vais faire ma petite conclusion, ça va, on est à peu près dans les temps. Donc on arrive au terme de cette émission, c'est le moment pour moi de remercier dans un premier temps l'équipe. Alors je vais citer toutes les personnes qui ont contribué au moins une fois dans une émission depuis le début de l'année. Donc Alain, Oxane, David, Marion, Tao, Nathan, Lise, Rémi, Raphaël, Lafkienne, Florian, Maxence et Karine. J'espère que j'ai vraiment oublié personne. Cette super bande de bénévoles qui se réunit et échange au moins une fois par semaine pour trouver des sujets, des invités, travailler des interviews, des chroniques, préparer des habillages sonores, mettre en ligne les podcasts, bref, tout un tas de choses. Alors, il y a quelques années, nous étions des amateuristes infirmes pour aujourd'hui devenir des amateurismes confirmé. Bravo et merci à tous pour votre investissement sans faille d'octobre à juin. Merci également à tous nos invités que je ne vais pas pouvoir citer car je les ai comptés. J'en ai dénombré pas moins de 47. Oui, c'est quand même énorme.
C'est beau.
Et c'est aussi grâce à leur disponibilité que l'on peut construire nos émissions. Donc un grand merci à eux, à elles. Merci également à Station B, à Radio Pulse qui diffuse nos émissions depuis maintenant presque 4 ans. Chers auditeurs, c'est le moment de vous dire au revoir. On se croisera, je l'espère, le 30 juin et le 7 juillet pour aller voter. Et si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances, je vous invite à écouter nos 66 émissions d'une heure disponibles en podcast sur l'audioblog Arte, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Toute l'équipe se joint à moi pour vous fêter un bel été. À très bientôt. Et là, on s'écoute Alas, le titre Forest Dance. C'est un artiste de la Ferté-Massé qui on retrouvera à Chouffé dans la noirceur et aussi à Arsenic. Tu voulais dire un truc, Floriane ?
Ah oui, merci à toi, Thomas, quand même.
Merci, Thomas.
Et bien, au plaisir. Bel été à tous et à toutes.